de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs et auditeurs, voici la voix de l'Indonésie, présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements à informer, entre autres. Xi Jinping rencontre le président français Emmanuel Macron à Bali. Président du CIO appelle à l'unité mondiale. Discours de Zelensky au sommet du G20 exhorte la Russie à retirer ses troupes d'Ukraine. Investissement de 20 milliards de dollars américains créerait une économie durable, a déclaré Lut. Prabowo signe un protocole d'accord avec l'OMS pour former un centre de formation médicale. Santiago Uno espère qu'il y aura un effet « wow » du programme des conjoints du G20. Indonésie et États-Unis dans une coopération de transport vert d'une valeur de 698 millions de dollars américains. Bon, chers auditeurs, voici les nouvelles en complet. Le président chinois Xi Jinping a rencontré le président français Emmanuel Macron à Bali mardi 15 novembre matin. Monsieur Xi a déclaré qu'au cours des trois dernières années, les deux parties avaient communiqué étroitement par divers moyens, de sorte que les relations sino-françaises avaient maintenu une dynamique de développement positive et que les deux pays avaient également fait des progrès positifs dans une importante coopération. Entre-temps, Macron a exprimé ses chaleureuses félicitations pour la réélection de Xi au poste de secrétaire général du compte central du Parti communiste chinois, PCC, et le plein succès de la tenue du 20e congrès national du PCC. Macron a poursuivi la France, défend une diplomatie indépendante et s'oppose à la confrontation des blocs. Face à la situation internationale volatile actuelle, la partie française espère continuer à maintenir l'esprit de respect mutuel, d'égalité et de réciprocité avec la partie chinoise, renforcer les échanges et le dialogue de haut niveau et approfondir la coopération dans des domaines tels que l'économie et le commerce, l'aviation et l'énergie nucléaire civile et invite les entreprises chinoises à coopérer en France, a déclaré Macron. Le président du Comité international olympique CIO, Thomas Bach, a appelé à l'unité mondiale à travers ses remarques lors du déjeuner du sommet du G20 à la Purva Kempinski Bali, Nusa Dua, Bali, mardi. À cette occasion, Bar et le président de la Fédération internationale de football FIFA, Gianni Infantino, ont été invités par le président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, à prononcer un discours. Bar a déclaré que maintenant, certains gouvernements, pour des raisons politiques, commencent à décider quels athlètes sont autorisés et non autorisés à participer à des compétitions sportives internationales. Si le sport devient un autre outil pour atteindre des objectifs politiques, il a souligné, le sport international s'effondrera. Les décisions concernant la participation des athlètes doivent être fondées uniquement sur le mérite sportif. Il espère que les dirigeants des pays membres du G20 formeront un nouvel ordre mondial après la pandémie de COVID-19 et mèneront à bien la mission unificatrice des Jeux olympiques et paralympiques. Le président Volodymyr Zelensky a demandé à la Russie de retirer toutes ses troupes en Ukraine lors d'un discours prononcé au sommet du G20. Mardi 15 novembre, le président Zelensky, lors d'un discours virtuel devant les dirigeants du G20, a souligné que la Russie devait retirer toutes les troupes et formations armées du territoire ukrainien. Dans le discours, Zelensky a également présenté les propositions de guerre de l'Ukraine. L'un de ces points concerne la menace radioactive. Selon lui, la Russie a transformé la centrale nucléaire de Zaporizhia en une bombe radioactive qui peut exploser à tout moment. Le ministre coordinateur des Affaires maritimes et de l'investissement de la République d'Indonésie, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, a déclaré que l'investissement indonésien de 20 milliards de dollars américains serait utilisé pour créer une économie durable pour les générations futures. Lors d'une conférence de presse sur le thème partenariat énergétique pour une transition juste à Nusa Dua, Bali, mardi, l'Indonésie doit construire une économie plus durable pour les générations futures. Le président américain Joe Biden, lors du sommet du G20 à Nusa Dua, Bali, a annoncé mardi que les États-Unis, le Japon, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, BAD, et les fonds d'investissement pour le climat investiraient 20 milliards de dollars dans la transition énergétique en Indonésie. Luhut a déclaré que cet important partenariat soutient les objectifs de l'Indonésie, notamment la mobilisation d'un financement initial public et privé de 20 milliards de dollars américains au cours des 3 à 5 prochaines années. Luhut a expliqué qu'en tant que plus grand pays anthropologique du monde, l'Indonésie a un rôle important à jouer pour éviter les pires impacts du changement climatique sur l'État, la société et l'environnement. Le ministre de la Défense de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto, a signé un accord entre le gouvernement indonésien et l'Organisation mondiale de la santé, OMS, pour établir un centre de formation multi-pays pour la préparation opérationnelle aux urgences sanitaires et une équipe médicale d'urgence à l'Université indonésienne de la Défense. Le protocole d'accord a été signé par le ministre de la Défense Prabowo Subianto, le ministre de la Santé Budi Gunadi Sadikin et le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, en présence du ministre coordinateur des Affaires politiques, juridiques et de sécurité Mahfud MD, représentant le président de la République d'Indonésie en marge du sommet du G20 à Nusa Dua, Bali, mardi. L'objectif de cet accord est d'augmenter la capacité de l'Indonésie, des pays asiatiques et des pays voisins à agir rapidement en cas d'urgence. Prabowo, dans sa déclaration écrite, a souligné que le fait d'avoir une équipe médicale d'urgence qualifiée fait partie de la solution, mais la formation de cette équipe nécessite un investissement substantiel, une concentration continue et un soutien spécialisé auquel tous les pays ne peuvent pas accéder indépendamment. Cela rend la coopération multipays vitale. Le ministère indonésien du tourisme et de l'économie créative, Kemen Parekraf de la République d'Indonésie, organise un programme conjoint ou programme pour les couples de chefs d'État qui assistent au sommet du G20 à Nusa Dua, Bali, du 15 au 16 novembre 2022. Le programme conjoint vise à présenter la richesse et la diversité de la culture indonésienne d'Aceh à la Papouasie. Le ministre du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, lors d'une conférence de presse dans la salle auditorium Bali International Convention Center, BICC, de Western Nusa Dua, mardi après-midi 15 novembre 2022, a exprimé son espoir que le conjoint programme aura un effet wow, car les participants sont des influenceurs dans leurs pays respectifs.
Dengan kebijakan terbaru ini, bagaimana dampaknya terhadap pariwisata Indonesia?
Espérons qu'il y aura un effet wow du programme conjoint. Ce sont des influenceurs de leurs pays respectifs. Espérons qu'ils pourront être un moyen de promotion de notre part et nous pourrons atteindre l'objectif de 3,6 millions, qui est limité au nombre total d'arrivées de touristes étrangers. Les devises que nous pouvons gagner sont limitées à 1,7 milliard de dollars américains. Et bien sûr, 1,1 million d'emplois créés cette année et 4,4 millions d'emplois en 2024 avec le Conseil de tourisme de qualité et durable et d'économie créative. Avec le thème de Journey Indonesian Sustainable Living Culture, le programme des conjoints présente une culture de la vie durable en Indonésie où les humains et la nature vivent en harmonie. L'événement a également introduit la diversité culturelle, mis en avant la question de la durabilité environnementale, la participation des femmes et des communautés et l'implication des PME de l'économie créative. Le programme des conjoints a réuni cette paire de chefs d'État du G20, à savoir le mari du président de la Commission européenne, Heiko von der Leyen, l'épouse du premier ministre espagnol Maria Bejona Gomez Fernandez, la première dame chinoise Peng Yuan, la première dame sud-coréenne Kim Kyon-hee et l'épouse du premier ministre japonais Yuko Kishida, la première dame turque Emine Erdogan et l'animatrice Iriana Joko Widodo. L'Indonésie et les États-Unis ont annoncé une coopération pour le développement des transports verts d'une valeur totale de 698 millions de dollars américains par le biais du Partenariat mondial pour les infrastructures et l'investissement, PGI. Cette annonce a été faite en marge du sommet du G20 à Nusa Dua, Bali, mardi 15 novembre. Le président des États-Unis, Joe Biden, qui a initié la réunion du PGI en marge du sommet du G20, a déclaré que la coopération pour construire des transports verts dans 5 provinces d'Indonésie fait partie de la collaboration du Millennium Challenge Corporation MCC Compact. Biden, lors de l'ouverture d'une réunion avec le président indonésien Joko Widodo et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré à la Millennium Challenge Corporation des États-Unis et l'Indonésie construiraient des transports résistants au changement climatique. Les États-Unis ont accepté d'investir 649 millions de dollars. Tandis que l'Indonésie canalisera un investissement de 49 millions de dollars américains. Bon, chers auditeurs, c'est tout, les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour l'accueil diplomatique intitulé « Ambassadeur de la République d'Indonésie coopère avec la femme Flores pour promouvoir la bonne Bajo en Bulgarie ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chargé tard, l'ambassadeur d'Indonésie en Bulgarie, Iwan Bogananta, prévoit de travailler avec une femme culturelle de Flores pour promouvoir la bonne Bajo auprès d'investisseurs potentiels bulgares intéressés à faire des affaires dans l'industrie du tourisme à Labuan Bajo. L'ambassade d'Indonésie à Sofia, dans une déclaration écrite mardi, a déclaré « L'ambassadeur indonésien pour la Bulgarie ainsi que Macédonie du Nord et l'Albanie participera à l'Indo Défense Expo 2022 à Jakarta, amenant des investisseurs potentiels qui souhaitent investir dans l'industrie touristique de Labuan Bajo. Au cours de cette visite, elle a rencontré une personnalité et une femme culturelle de Flores, Elizabeth Yani Tararubi. L'ambassadeur Bogananta a déclaré « Elizabeth a voyagé dans plusieurs pays et sa mission n'est qu'une seule, faire découvrir la culture et le tourisme de Flores au monde. » À travers Elizabeth, elle prévoit de promouvoir la Labuan Bajo pour la communauté européenne à travers la Bulgarie. Il est prévu qu'en 2023, son parti invitera Elizabeth à participer au Festival d'art et de culture indonésien en Bulgarie avec le thème « Five Cents ». À cette occasion, l'ambassadeur Bogananta a exprimé son appréciation pour les efforts d'Elizabeth pour présenter Flores et Labuan Bajo aux yeux de la communauté internationale. Elizabeth a également transmis un message à un homme d'affaires bulgare concernant l'importance de maintenir un équilibre entre la création d'une entreprise et préserver la nature, l'environnement et les ressources humaines. Bon, chers auditeurs, c'est tout, l'accueil diplomatique.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forco de getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers auditeurs, bonsoir. Pour la rubrique suivante, on va donc l'histoire d'aujourd'hui. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 novembre 1972. L'UNESCO adopte la Convention du patrimoine mondial. Le 16 novembre 1972, l'UNESCO organise la Conférence du patrimoine mondial. À cette date, l'UNESCO a adopté la Convention du patrimoine mondial. La Convention détermine quels sites peuvent être considérés pour inscription sur la liste du patrimoine mondial, stipulant les devoirs du gouvernement de chaque pays d'identifier les sites potentiels et de les protéger et de les préserver. Les pays signataires de la Convention s'engagent à préserver les sites de patrimoine mondial situés sur leur territoire et à rendre compte régulièrement de leurs conditions. La Convention définit également la manière dont le fonds du patrimoine mondial sera utilisé et géré. Passons maintenant à l'événement du 16 novembre 1988. Benazir Bhutto devient la première femme dirigeante de l'État islamique au Pakistan. Le 16 novembre 1988, lors des premières élections ouvertes depuis plus de 10 ans, le parti de Benazir, le Parti du peuple pakistanais, PPP, a remporté le plus grand nombre de sièges à l'Assemblée nationale. Benazir Bhutto a prêté serment en tant que premier ministre du gouvernement de coalition le 2 décembre 1988, à l'âge de 35 ans. Ainsi, à cette époque, Bhutto est devenu la plus jeune personne et la première femme à diriger un pays à majorité musulmane à l'époque moderne. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement du 16 novembre 2002. La maladie du SRAS a été enregistrée pour la première fois dans le Guangdong, en Chine. Le SRAS est une maladie causée par le virus corona du SRAS ou SARS-CoV. Les patients touchés par le SRAS éprouvent des problèmes respiratoires aigus et peuvent entraîner la mort. La maladie du SRAS est apparue pour la première fois dans la province de Guangdong, dans le sud de la Chine, le 16 novembre 2002. Février 2003, le SRAS a été identifié pour la première fois. Jusqu'en juillet 2003, il y avait plus de 8000 cas de SRAS qui ont causé 774 décès et se sont propagés dans 37 pays. C'est Jurita, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa? Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah. Tingkahku yang terkadang kau tangisi, jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Oh, apakah kau juga merasa? Dan aku bersama mencari arti dunia. Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti dunia.
Indahnya awal kita bertatap mata. Percayalah diriku akan setia.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Cezrita, bonsoir. Voici mon Indonésie et pour le titre, l'Indonésie renforce sa coopération commerciale avec l'Inde en marge de G20. Le ministre indonésien du commerce, Zulkifli Hasan, a rencontré le directeur général de la Confédération de l'industrie indienne, CII, Kandrajit Banarie, en marge du sommet du G20 à Bali, lundi. La réunion faisait suite aux activités de la mission commerciale tenue en août dernier. Dans sa déclaration, lundi, Zulkifli Hasan a déclaré que sa partie effectuerait une visite en Inde pour formuler une coopération accrue entre les deux pays. Le ministère du Commerce amènera des acteurs commerciaux indonésiens en Nantes et organisera des réunions inter-entreprises avec des acteurs commerciaux indiens. On espère que cette activité pourra accroître les échanges entre les deux pays. Auparavant, lors d'une mission commerciale en août dernier, la Confédération de l'industrie indienne avait exprimé son soutien pour que les deux pays concluent un accord commercial bilatéral afin d'accroître les échanges et les investissements, soit par le biais des négociations d'un accord commercial préférentiel, PTA, soit l'examen de l'accord sur le commerce et des marchandises asiennes entre AITIGA. La Confédération de l'industrie indienne a également exprimé son soutien à la présidence indonésienne du G20 de cette année et souhaite créer une synergie plus étroite pour la durabilité de la force du G20 Atlante 2023. Conformément à l'Indonésie, l'équipe indienne du V20 prépare plusieurs questions prioritaires liées à la résilience économique par le biais des chaînes de valeur mondiale, des énergies renouvelables et du changement climatique. Lors de nos réunions en Inde, en août dernier, des représentants d'acteurs commerciaux indiens ont également exprimé leur intérêt pour le secteur indonésien des investissements dans les infrastructures portuaires, aéroportuaires et terrestres. Le projet de développement de la capitale de l'État, IKN, ainsi que des projets de développement de l'information et de la technologie ou intelligence artificielle. En outre, l'Inde développe la mission solaire nationale et invite l'Indonésie à participer au transfert de technologies et d'expertise. Au cours de la période janvier-septembre 2022, les échanges entre l'Indonésie et l'Inde ont atteint 25,5 milliards de dollars américains et une hausse de 60,3% par rapport à la même période de l'année précédente. Au cours de cette période, les exportations de l'Indonésie vers l'Inde ont été enregistrées à 17,9 milliards de dollars américains, tandis que les importations indonésiennes en provenance de l'Inde ont été enregistrées à 7,5 milliards de dollars américains. Ainsi, l'Indonésie a connu un excédent de balance commerciale avec l'Inde de 10,4 milliards de dollars américains. C'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Datang pergi irama hidup. lembaran hidup
suka duka datang pergi irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel.
Chers auditeurs, le site du patrimoine culturel de la forteresse d'Amsterdam est situé entre Ila et Kaitetu dans le district de Leihitu, la résidence de Molouk Central à environ 42 km de la ville d'Ambon. La forteresse d'Amsterdam est le deuxième bâtiment construit par les Néerlandais après la destruction de Kasteel Van Veer dans l'état de Sète. Cette forteresse est l'un des anciens bâtiments centenaires et fait partie de l'histoire de la VOC à Ambon, au Molouk à cette époque. Elle se trouve sur la plage et à côté de la vieille église Emmanuel à une altitude de 3 mètres au-dessous du niveau de la mer. En général, la forteresse d'Amsterdam est divisée en deux parties. Le bâtiment principal est un bloc cuit qui est un bâtiment imposant avec un plan de base carré. La deuxième partie est une cour qui est large à l'extérieur du bâtiment principal et est entouré d'un mur de forteresse et de deux bastions d'environ 3 mètres de haut. Avant de devenir la forteresse d'Amsterdam, cet endroit était une loge portugaise pour le stockage des épices. Cette forteresse était très significative pour les Portugais car à cette époque, la baie d'Ambon était la voie d'entrée et de sortie des navires marchands aux Moluques. Cette zone a été faite par les Portugais comme un centre pour le commerce des épices et une base de défense pour faire face aux attaques des navires étrangers. En 1512, le bâtiment principal de la forteresse d'Amsterdam a été construit pour la première fois par les Portugais dirigés par Francisco Serrao. Après que les Néerlandais soient arrivés et aient pris le contrôle de l'île d'Ambon en 1605, ils ont vaincu les Portugais et ont repris la loge portugaise. Ils en ont fait une forteresse, ce qui a été fait par le gouverneur général Jan Hottens en 1637. Cela a également été soutenu par la formation de VOC. Le changement de fonction de la loge a été fait parce qu'à cette époque, il y avait une bataille entre les Pays-Bas et le royaume de Tanahitu ou le royaume de Hitu. La bataille a eu lieu de 1633 à 1654. Le royaume Hitu était dirigé par Capitaine Kakiali. La forteresse d'Amsterdam est l'une des forteresses préservées des Moluques qui possède un petit musée comme lieu de stockage des reliques du passé. Les premiers, deuxième et troisième étages servaient de résidences aux soldats hollandais. Le premier étage servait de lieu de repos pour les soldats, le deuxième servait de lieu de réunion pour les officiers et le troisième étage servait de poste de surveillance. Le toit de cette forteresse est rouge et n'est plus d'origine. La forteresse d'Amsterdam est au bord de la mer, surplombant l'île de Seram. Pour vous rendre à la forteresse d'Amsterdam, vous pouvez utiliser un service de location de minibus depuis l'aéroport de Patimura ou pour les routards, vous pouvez prendre le transport urbain sur la route de Laha puis prendre le minibus Ila AKDP. Chers auditeurs et auditrices, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. À demain. Terima kasih.
Changer tard, c'était la belle chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc apprendre l'indonésien. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir. On se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue, de la recherche et de la technologie du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Mengapa. En français, pourquoi? Bonne écoute. Cher Joëtard, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Mengapa? En français, pourquoi? Cette conversation se déroule entre Dev Singh, un touriste indien, et un guide touristique à Labuan Bajo. Dev pose des questions sur les raisons pour lesquelles vous devriez venir sur l'île de Komodo avec un guide touristique.
Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata?
Agar lebih aman.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Mengapa? Pourquoi? Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot, chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. Mengapa? Pourquoi? Wisatawan, touriste. Wajib, ils sont obligés. Datang. Venir, bersama, ensemble avec, pemandu wisata, guide touristique. Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata? Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata? Pourquoi les touristes sont-ils obligés de venir avec un guide touristique? Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu la phrase « Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata ?»« Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata ?» En français, pourquoi les touristes sont-ils obligés de venir avec un guide touristique ? Dans ce discours, il y a le mot « mengapa ». « Mengapa ?»« Pourquoi ?» Le mot « mengapa ?» Mengapa, pourquoi, est utilisé pour demander des informations sur une cause ou une raison, par exemple, les règles d'un site touristique. Dans cette phrase, l'expression Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata, Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata, en français, pourquoi les touristes sont-ils obligés de venir avec un guide touristique? Est utilisé par Dev pour demander la raison ou à cause des règles sur l'île de Komodo, à savoir venir avec un guide touristique. Chers auditeurs, allons maintenant écouter d'autres exemples d'expressions à demander pour quelques raisons ou les raisons liées aux règles dans les attractions touristiques. Kenapa? Pourquoi? Kenapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata? Kenapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata? Pourquoi les touristes sont-ils obligés de venir avec un guide touristique? Chers amis, le mot interrogatif mengapa ou kenapa pourquoi en français est un mot interrogatif qui a le même sens que pourquoi. Cependant, le mot interrogatif pourquoi est plus souvent utilisé dans une variété de langues parlées. Changez de tard avant de terminer à apprendre l'indonésien pour comprendre mieux. Écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Mengapa wisatawan wajib datang bersama pemandu wisata?
Agar lebih aman.
Bon, changez de tard. Voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour cette fois. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir. C'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson intitulée « Anakos ». Chers amis, la chanson « Anakos » est sortie en 2009 par un groupe de musique de Bali, Nano Biru. Les paroles de la chanson « Anakos » racontent l'internat des enfants, vivra dans une petite pièce loin d'une famille aux revenus médiocres. Cependant, elle espère que son amant l'aime comme elle est. Bonjour Joytar, voici Nano Biru va chanter une chanson intitulée Anakos. Bonne écoute.
Kamar Johnny, kuangkan 3x3 meter. Itu paling idam, menganti yang sama. Joken roramo, singajaknya mo. Boleh kapan ora sayang tresno, kapan modaran ne jaon-jaon, sai-sai warok banmi instan. Yan mula adi, sokon-sokon tresno ken beli. Gelam yang jebeli apa adane, beli sing suke pipis pas-pasan, ngirit ngono hang beban bulanan. Beli sing bagus sing sangat kedas, maklum ragan beli sing terawal. Beli tua anak kos, boya jopan apa
hidup indah kos sing dadi boros nyanan sing idang maya kos mogi adi sing Allah ngalah tunangan kos kang wang matunangan gaya anak kos memalam mingguan di muka kamar kos. Ooh, yeah, 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 pas-pasan ngirit nganohang beban bulanan beli sing bagus sing sangot kedas maklum ragan beli sing terawal beli tuaan anak kos boya jopana bos hidup indah kos sing dadi boros nyanan sing idang maya kos mogi adi sing Allah ngalah tunangan kos kang wang matunangan gaya anak kos malam mingguan di muka kamar kos di muka kos beli tua anak kos boya jopan anak bos beli tua
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.